Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette réunion importante d'avoir invité l'équipe du rapport mondial de suivi sur l'éducation à venir faire cette intervention dans le cadre de votre réunion. C'est un grand jour pour nous parce que c'est aujourd'hui que le rapport mondial de suivi de 2017-18 est lancé. Donc c'est vraiment un ouf de soulagement pour nous parce que c'est la consécration un peu de 18 mois de travail et c'est vraiment un jour encore une fois important pour nous. Je ne vais pas revenir sur l'importance du travail de suivi que nous faisons, mais juste rappeler qu'il y a 2 ans, les pays et l'ensemble de la communauté internationale ont décidé d'adopter le programme de développement durable qui comporte 17 objectifs, parmi lesquels l'objectif 4 qui a trait à l'éducation. C'est un objectif qui est très important parce que non seulement parce que l'éducation est un droit humain fondamental, mais parce qu'également l'éducation, ce droit à lui tout seul, ouvre également l'accès à d'autres droits. Donc le travail que nous faisons, c'est un travail de suivi. En 2015, le rapport mondial qui existait déjà à l'époque de l'éducation pour tous a vu son mandat renouvelé pour continuer à faire ce travail de suivi des progrès vers les 7 cibles de l'éducation de l'objectif 4 du développement durable. Pourquoi ce travail est si important? Parce qu'encore une fois, il ne suffit pas pour les pays et la communauté internationale d'adopter des objectifs. Encore faut-il qu'ils travaillent pour mettre en œuvre les politiques nécessaires pour la réalisation de ces objectifs. Et au final, à travers ce travail, les États doivent rendre des comptes parce qu'ils se sont engagés. C'est un engagement clair qu'ils ont tous pris. Et le travail que nous faisons, justement, c'est vraiment l'essence du rapport, faire un suivi des progrès afin d'amener les pays et la communauté internationale à rendre compte de la manière dont ils respectent leurs engagements. Avant de passer à la suite, donc simplement vous dire que ce travail important que fait le rapport ne peut se faire sans la contribution de différentes parties prenantes, dont les chercheurs, parce que c'est un rapport qui est basé également sur les faits probants issus de la recherche, parce que c'est ainsi que nous informons les politiques publiques dans les pays. Donc le rapport travaille avec un réseau de chercheurs, travaille également avec des instituts, dont l'Institut de statistique de l'UNESCO, qui est vraiment un partenaire important pour nous, parce que c'est cet institut qui nous fournit les données statistiques dont nous avons besoin pour faire le travail de suivi. Mais le travail, les sources de données sont également autres, parce que, encore une fois, l'agenda est devenu important en termes holistiques, donc qui nécessite l'utilisation de données venant de différentes sources, dont les enquêtes ménages. Donc nous travaillons également avec des organisations comme l'UNICEF, l'OCDE, parce que l'agenda est devenu universel. Ce n'est plus un agenda que certains considèrent comme un agenda uniquement pour les pays en développement, comme ça a été le cas dans le passé avec les objectifs millénaires. C'est vraiment un agenda universel. Pourquoi? Parce que ça reconnaît que à tout niveau, à des degrés divers, tous les pays du monde ont des problèmes éducatifs, donc qui sont amenés à résoudre. L'objectif 4 du développement durable est composé de 7 cibles. Donc la première des cibles, c'est la cible 4.1 qui appelle les pays à assurer un achèvement primaire et secondaire universel, gratuit, obligatoire, dont l'objectif est de conduire à des acquis d'apprentissage pertinents et efficaces. Donc l'objectif 4 de l'éducation est un objectif résolument qui va au-delà de la question de l'accès à l'éducation, pour vraiment mettre l'accent sur la qualité, qui est vraiment quelque chose qui doit être au centre des apprentissages. C'est également un objectif qui met l'accent sur l'équité, hein, qui souligne la nécessité d'avoir une perspective d'éducation tout au long de la vie, parce que ce n'est pas simplement une question uniquement de mettre les enfants à l'école, s'assurer qu'ils apprennent bien, mais c'est vraiment un objectif qui interpelle dans ce sens qu'il il traite de tous les âges de la vie, de la petite enfance à l'âge adulte. Donc, quel que soit l'âge des individus, ils ont tous droit à l'éducation. Donc, l'objectif, la cible 4.1, appelle donc à un achèvement du primaire et du secondaire universel, mais c'est un objectif fort, mais on s'aperçoit que 2 ans après l'adoption du nouveau cadre d'action, on a encore 264 millions d'enfants, d'adolescents et de jeunes à travers le monde qui ne sont pas scolarisés. Plus de la moitié de ces enfants vivent en Afrique subsaharienne. Donc c'est un défi pour ce continent, car encore une fois, l'éducation est très importante parce que ça crée un capital humain qui lui-même est important pour la prospérité et le développement des pays de la région. Donc on a encore ce problème d'accès à l'école. On a également un problème d'achèvement parce que la cible 4.1 est vraiment centrée sur la question de l'achèvement. Or, on s'aperçoit que 2 ans après l'adoption du nouveau cadre mondial, l'achèvement reste un défi considérable. C'est un défi d'autant plus considérable que ça se pose davantage au niveau du secondaire. C'est vraiment là où les défis doivent vraiment être relevés. Donc on voit que alors que le taux d'achèvement du primaire est de 83%, c'est-à-dire qu'on a 83% d'élèves du primaire qui finissent l'ensemble du cycle, on a que 45% des adolescents du premier cycle du secondaire qui achèvent ce cycle, et simplement 25% de ceux du deuxième cycle qui l'achèvent. Donc c'est un défi considérable. Ensuite, je vais parler de la cible 2. Pourquoi ? Parce que là aussi, on dit tout le temps que la petite enfance est vraiment le fondement de l'apprentissage. Donc c'est une cible qui souligne encore une fois cet aspect, parce que ce qui se passe dans la petite enfance a forcément un impact pour la suite. Les enfants, les petits enfants doivent être préparés pour le primaire, et plus tôt l'apprentissage a lieu, mieux c'est. Or, on s'aperçoit que 69% des enfants d'âge en fin du préscolaire sont scolarisés soit dans le secondaire, soit dans le préscolaire, soit dans le primaire. En Afrique subsaharienne, ce taux reste très bas. Là aussi qui pose la question de l'accès des enfants dès la prime enfance à l'éducation. Et l'enseignement du pré-primaire est un enseignement qui est très peu équitable, parce que c'est souvent les enfants les plus riches qui ont 5 fois plus de chances d'aller au préscolaire que les enfants les plus pauvres. Et ceux vivant en milieu urbain ont également plus de chances d'être scolarisés que ceux qui vivent en milieu rural. La petite enfance, comme l'enseignement, comme la cible 4.1, est également une cible qui a fait de l'éducation obligatoire et gratuite comme un aspect important pour les pays à mettre en place. Donc c'est une cible qui appelle les pays à mettre en place des politiques qui fixent au moins une année du préscolaire qui soit gratuit et obligatoire. Or, au jour d'aujourd'hui, on a à peine que 17% des pays qui ont mis en place cette politique. Là aussi, ça montre le défi considérable auquel les pays doivent faire face. Je ne vais pas vous parler de l'état des lieux de toutes les cibles, parce que je vous encourage à lire le rapport, qui est une source considérable et riche d'informations utiles pour le travail, de votre travail. Et je vais mettre l'accent sur la troisième cible dont j'ai envie de parler, c'est la cible 4.6, qui là, c'est la cible qui appelle les pays à s'assurer que tous les jeunes savent lire et écrire et qu'un nombre substantiel d'adultes deviennent alphabètes. Or, on s'aperçoit que l'alphabétisation des adultes s'est très peu améliorée depuis 2000, car en 2016, on avait encore à peu près 750 millions d'adultes dans le monde qui ne savaient ni lire ni écrire. Et près de 63% de ces adultes étaient des femmes. L'alphabétisme des jeunes est beaucoup plus développé. Et les taux d'alphabétisme, les taux d'alphabétisme des jeunes ont progressé davantage que ceux des adultes. Mais on s'aperçoit qu'il y a encore quand même plus de 100 millions d'adultes, de jeunes adultes dans le monde qui ne savent pas lire et écrire. On pourrait croire que, le problème de l'analphabétisme est propre uniquement qu'aux pays en développement. C'est loin d'être le cas. Parce que dans les pays développés, il y a également des poches d'illettrisme, parce que c'est le terme approprié pour ces pays-là, qu'on observe. On s'aperçoit qu'il y a des pays où c'est l'illettrisme est en augmentation. Donc ça va être les pays comme le Danemark, la Norvège et la Suède, où là on a vraiment, et un pays également comme la France, l'organisation qui s'occupe de l'illettrisme en France chaque année nous parle de ces poches d'illettrisme qui persistent dans des pays riches également, y compris la France. La question de la langue d'apprentissage est sans doute un élément qui explique les taux d'analphabétisme qui restent importants en Afrique. Donc en Afrique, on a encore 45% d'adultes qui ne savent ni lire ni écrire, parce que souvent la formation se passe dans une langue qui n'est pas toujours parlée par les adultes et qui n'est pas forcément comprise. Donc c'est un problème considérable auquel les pays doivent faire face. C'est-à-dire comment faire en sorte que l'apprentissage soit pertinent également en termes de langue utilisée pour amener les adultes à devenir alphabètes. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de ma présentation, qui porte vraiment sur le thème de cette année. Encore une fois, le thème de cette année étant l'obligation de rendre des comptes en matière d'éducation. Parce que, encore une fois, dès lors que les engagements ont été pris, il faut absolument rendre des comptes et dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait pour que les objectifs auxquels on s'engage sont réalisés. Pardon. Les autres cibles, certainement, à travers les questions que vous allez poser après, je vais pouvoir en parler de manière plus détaillée. Donc, ce thème de la redevabilité dans l'éducation fait écho au mandat du rapport, comme je l'ai rappelé, et le but étant éminemment de d'amener les différents acteurs de l'éducation à rendre des comptes. Donc, on vient de voir qu'il y a des défis qui demeurent, auxquels les pays doivent faire face. Et faire face en utilisant la redevabilité, ça peut aider à accélérer les progrès et ça peut amener des changements. Encore faut-il bien faire les choses. Car, encore une fois, nous, dans le rapport, on pense que l'obligation de rendre des comptes dans l'éducation ne devrait pas être considérée comme une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen pour amener les systèmes éducatifs à s'améliorer et à améliorer la qualité de l'éducation. Donc, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Dans l'éducation, différents acteurs sont à l'œuvre. Évidemment, il y a les gouvernements comme C'est pas très visible, mais il y a les gouvernements. Bien entendu, parce que l'éducation est un devoir régalien, un des devoirs régaliens des gouvernements. Il y a les enseignants, il y a les écoles, il y a les parents, et il y a les organisations internationales, mais il y a également, et surtout également, parce que ça vous parle, ça vous interpelle, il y a la société civile qui joue également son rôle. Il y a quand même quelques vérités s'agissant de la redevabilité dans l'éducation. Il y a quelques vérités qu'il faut absolument mettre à jour. Tout d'abord, qu'entend-on par la reddition des comptes dans l'éducation? La reddition des comptes en matière d'éducation permet de déterminer qui est responsable de quoi et comment résoudre les problèmes. Et pour faire bref, ça suppose que les différentes responsabilités des différents acteurs soient clairement définies pour qu'encore une fois, chacun sache ce qu'il a à faire et sur quoi il doit rendre des comptes. Une des vérités, c'est de dire que les résultats éducatifs ambitieux tels que ceux que vise l'ODD4 impliquent que de multiples acteurs, depuis les gouvernements jusqu'aux élèves eux-mêmes, s'acquittent des responsabilités qui sont souvent partagées. Là, c'est vraiment un aspect important que nous avons voulu souligner dans le rapport. L'éducation est une responsabilité partagée. Elle ne relève pas uniquement d'un seul acteur. À tous les niveaux, chaque acteur à son niveau est responsable de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Mais si les responsabilités sont partagées, tel n'est pas le cas de l'obligation de rendre des comptes. Souvent, c'est individuellement que les acteurs sont amenés à rendre des comptes, alors que souvent, on leur demande de rendre des comptes pour des responsabilités, pour des choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Donc ça, c'est un fait qu'il faut absolument souligner. On ne peut rendre des comptes que sur des choses dont on est vraiment responsable. Cela étant, nous ne devrions, je viens de le dire, par exemple, les enseignants ne peuvent pas être blâmés des résultats, des mauvais résultats d'apprentissage de leurs élèves, ou alors ils ne sont pas les seuls à blâmer, parce que pour qu'ils soient blâmés, il faut s'assurer qu'ils aient été formés. Est-ce qu'ils ont toutes les conditions qui doivent améliorer leur travail? Est-ce que toutes ces conditions existent? Est-ce que l'État fait son travail en termes de motivation, en termes de salaire, en termes de développement professionnel? Parce que tout ceci, ce sont des choses qui relèvent des conditions de travail des enseignants. Et pour qu'on leur demande des comptes, il faut déjà savoir si on a pu mettre en place un environnement propice devant favoriser les aider à faire leur travail. Et enfin, une dernière vérité, quand on parle de la question de l'obligation de rendre des comptes, cette question nécessite une souplesse. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui peuvent être efficaces dans certains contextes et pas dans d'autres, et pour certains aspects de l'éducation et pas pour d'autres. Donc, l'obligation des comptes, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est pas du tout une fin en soi, mais un moyen d'atteindre un objectif. Si l'éducation relève de la responsabilité de différents acteurs dans l'éducation, ce sont d'abord et avant tout les gouvernements qui en sont les premiers responsables. C'est la raison pour laquelle la présentation que je suis en train de vous faire met surtout l'accent sur cet acteur clé de l'éducation. Pourquoi les gouvernements sont-ils les premiers responsables de l'éducation? Parce qu'ils sont amenés à garantir le droit à l'éducation. Ils ont pris des engagements légaux pour ouvrir ce droit à tous leurs citoyens. Et ils sont donc redevables de la manière dont ils mettent en œuvre ce droit. tous les pays du monde ont ratifié au moins un traité international reflétant leur engagement en faveur du droit à l'éducation. Cependant, ce n'est que dans 55% des pays où les citoyens peuvent traîner un État en justice pour lui demander de rendre des comptes. Quand un État est défaillant, dans ces pays-là, les citoyens peuvent amener et traîner les systèmes éducatifs, l'État, à rendre des comptes. On a donc 55% où ce droit opposable existe, mais on n'a que 41% des pays où c'est effectivement fait. C'est-à-dire qu'on n'a que 41% des pays où les citoyens ont effectivement fait jouer ce droit opposable. Comment concevoir des systèmes de reddition de comptes solides ? Le rapport fait un certain nombre de recommandations qui, j'espère, vont être regardées de près, parce qu'encore une fois, ça peut paraître comme des choses de bon sens, mais ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Tout d'abord, il est absolument important qu'un contrôle efficace des responsabilités soit mis en place pour renforcer les systèmes éducatifs. Le rapport, encore une fois, formule ces différentes recommandations. Il faut tout d'abord créer un espace d'engagement constructif pour instaurer la confiance. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend par là que les gouvernements doivent créer et instaurer une confiance avec les différents acteurs pour les amener à travailler avec lui. C'est un principe louable, mais est-ce vraiment la réalité ? En effet, on s'aperçoit que le rapport a fait une étude sur 70 pays, 70 syndicats d'enseignants qui ont été observés et dans une cinquantaine de pays. Et parmi les 16 syndicats, on a plus de 60% qui sont peu ou pas du tout consultés pour, par exemple, des questions comme le développement des curricula ou de manuels scolaires. Donc on a un principe qui est posé, mais dans la réalité, il n'est pas toujours respecté. Les gouvernements devraient consolider le rôle des institutions représentatives, entre autres les parlements, en promouvant leurs fonctions et en renforçant leurs capacités. Ces institutions, dont les parlements, devraient être associées à l'examen des politiques éducatives. Dans un pays comme le Royaume-Uni, les changements apportés à la politique d'éducation sont souvent ceux-là même que prône la commission parlementaire de l'éducation, ou alors des changements qui ne sont pas très, très éloignés de ces recommandations. Oui, 3 minutes. Je vais aller vite, c'est dommage. On a parlé tout à l'heure de l'importance de faire un suivi des politiques. Hein, les politiques sont mises en place, mais il faut également les suivre pour voir si elles permettent d'avoir l'impact escompté. Or, d'après les travaux du rapport, on a seul un pays sur deux qui a publié un rapport de suivi des objectifs, aussi blancs politiques que de plans et des budgets. Et parmi ces pays, on n'en a que 1 sur 6 qui a publié un tel rapport annuellement. Donc là également, la culture de suivi et d'évaluation est quelque chose à instaurer dans les politiques éducatives, parce que encore une fois, il faut qu'à tout moment, on sache où on va. Et ça donne, encore une fois, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, de la visibilité pour voir ce qu'on a fait, ce qui reste à faire et ce qu'on doit faire. Il faut également instaurer des cadres de réglementation et des normes qui s'appliquent à tous les acteurs de l'éducation, publique et privée. Donc, il n'est pas question que certains acteurs échappent à ça. Donc, il y a les acteurs publics pour lesquels il y a des réglementations qu'ils doivent suivre. Les acteurs privés doivent également faire de même. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans un pays comme le Nigeria, et à Lagos, au Nigeria, alors qu'on a 57% d'élèves du primaire qui sont scolarisés dans le secteur privé, on n'a que 26% de ces écoles qui sont enregistrées. Donc c'est vraiment un problème d'accréditation et de fonctionnement de l'ensemble du système. Et encore une fois, il est important de faire un travail de contrôle. Les réglementations sont également importantes. Pour tout à l'heure, le directeur intérim de l'UNESCO à Dakar a parlé de la question des cours de soutien privé. C'est également là où il y a des choses qu'il faut absolument de suivre de près. Dans un pays comme Hong Kong a mis en place un enregistrement en ligne des centres de soutien, des soutiens privés. Et tous ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas enregistrés, sont tout simplement fermés. Donc ça, c'est encore un mécanisme de contrôle que mettent en place certains pays. Je ne vais pas parler Je ne vais pas reparler de l'augmentation du rôle du secteur privé dans l'éducation. Et en Afrique subsaharienne, c'est de plus en plus important. Par exemple, dans la région, alors qu'on a 13% des élèves du primaire qui sont inscrits dans l'enseignement primaire privé, on a 20% des élèves du secondaire qui le sont, et le chiffre va jusqu'à 32% pour la petite enfance. Dans des pays comme le Cameroun et le Sénégal, ce sont plus de 60% des enfants du préscolaire qui sont inscrits dans des établissements privés. Et ça pose bien évidemment un problème manifeste d'équité. Hein? C'est quand ces établissements, quand il faut payer pour aller dans ces établissements et que les enfants pauvres qui en ont plutôt le plus besoin des programmes d'éveil à la petite enfance, et quand ces enfants ne peuvent pas y aller, c'est quelque chose qui doit absolument interpeller. Ça veut dire que quelque part, l'État a failli. Je vais abréger pour parler de la question de la un autre mécanisme qu'il faut mettre en place pour que la reddition des comptes se fasse de manière appropriée. Il faut permettre l'expression de la voix démocratique. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est par exemple donner la possibilité aux médias, leur assurer une liberté d'expression pour qu'ils traitent des questions éducatives. Ça permet également aux acteurs de la société civile de pouvoir suivre ce que font les gouvernements, et quand ça ne marche pas, et ça leur permet de le dire haut et fort. Par exemple, un acteur de l'éducation qu'on a mentionné tout à l'heure, Pearson, est le plus grand monopole de l'éducation privée dans le monde. Et la question de savoir qui demande à cet acteur-là de rendre des comptes. Par exemple, il y a des campagnes qui ont été menées par la société civile en Afrique du Sud qui ont amené, qui ont fait prendre conscience de ce que faisait cet acteur Pearson, et qui ont amené à susciter, qui ont suscité une prise de conscience de, par exemple, d'un manuel scolaire mis en place par cette entreprise, qui, par exemple, contenait des scènes d'agression sexuelle qui tendaient à blâmer les victimes. Donc là, c'est une question absolument importante qu'il faut vraiment souligner. Les acteurs, encore une fois, privés, tous les acteurs à leurs différents niveaux doivent rendre des comptes, et les acteurs privés, je ne dirais pas encore plus, doivent également le faire de par le rôle croissant qu'ils jouent aussi bien pour fournir l'éducation en tant que prestataire, mais également pour fournir d'autres services auxiliaires comme les cantines scolaires ou la distribution ou même la fabrication des manuels scolaires. Donc c'est un acteur qui a un rôle à jouer, certainement, mais qui doit absolument rendre compte. Merci.